RFI, minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Toute l'actualité africaine, c'est avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. À la une, la visite écourtée mais historique de Volodymyr Zelensky en Afrique du Sud. Visite au cours de laquelle le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à un cessez-le-feu inconditionnel en Ukraine. À Madagascar, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission franco-malgache d'historiens sur la répression de l'insurrection de 1947. Le conflit dans l'Est de la RDC, des réactions, le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent une avancée après la déclaration de Kinshasa et des rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve. Nous irons en Côte d'Ivoire où après la radiation de son candidat Tidiane Thiam des listes électorales qui l'écartent de la présidentielle d'octobre, le PDCI peine à mobiliser. À suivre également dans la deuxième partie de notre émission, la musique avec l'Afroclub d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Une visite événement en Afrique du Sud, elle aura tourné court. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu par le président Cyril Ramaphosa au palais présidentiel de Pretoria, mais il a dû rentrer précipitamment en Ukraine après une nouvelle attaque des forces russes qui a fait au moins 8 morts à Kiev. Et avant de sauter dans l'avion du retour, Volodymyr Zelensky s'est adressé aux médias. Il a rappelé l'importance du rôle de l'Afrique du Sud et de l'Afrique en général pour parvenir à la paix avec la Russie. Valentin Hugues.
C'est une rencontre historique, première visite officielle du président ukrainien dans un pays d'Afrique, illustration d'une volonté de se rapprocher du continent.
Poutine n'apprécie pas la présence de l'Ukraine en Afrique. La Russie veut une présence exclusive, mais nous sommes convaincus que le président sud-africain et d'autres partenaires sur le continent contribueront à forcer Poutine à soutenir un cessez-le-feu total et inconditionnel et à arrêter la guerre.
Et en tant que pays non aligné, l'Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d'être un pays médiateur. Rien que cette semaine, juste avant la visite de Zelensky, Cyril Ramaphosa a aussi échangé au téléphone cette fois avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump.
L'expérience de notre propre parcours, du cauchemar de l'apartheid à la démocratie, nous fait comprendre l'importance d'impliquer toutes les parties au conflit pour parvenir à la paix. S'il est une chose que notre histoire nous a apprise, c'est que la diplomatie et le dialogue sont plus puissants que n'importe quelle arme.
Volodymyr Zelensky a dû écourter sa visite à Pretoria pour rentrer en urgence à Kiev après l'une des plus grandes offensives russes sur la capitale ukrainienne. Valentin Hugues, de retour de Pretoria, RFI.
Autre visite, celle d'Emmanuel Macron à Madagascar. Il a annoncé, juste avant de rentrer en France, la création d'une commission mixte franco-malgache d'historiens sur les massacres lors de l'insurrection de 1947. Sa visite aurait dû s'achever par la toute première institution française de restes humains, celle des crânes sakalaves, dont celui présumé du roi Toer, décapité par les troupes coloniales françaises. C'était en 1897, finalement, pour des questions de dissension entre les différentes branches de descendants du roi et de calendrier. La restitution a été reportée au mois d'août. Sarah Tétot.
Il aura attendu la toute fin de son court séjour malgache pour l'annoncer. Quelques minutes avant de quitter la Grande Île, Emmanuel Macron a donc déclaré face à la presse que le président Ange Radzoen et lui avaient décidé d'instaurer une commission mixte franco-malgache d'historiens pour faire notamment la lumière sur le massacre de mars 47 et les répressions d'insurgés tout au long de la colonisation. Les atrocités qui ont été commises à cette époque restent encore une plaie très forte dans l'histoire de Madagascar, a-t-il expliqué. C'est aussi, je cite, un moment de notre histoire commune qu'il faut rouvrir. Sans plus donner de détails, le président français a donc annoncé la mise en place de travaux communs, une déclaration qui intervient une semaine jour pour jour après la création de la commission mixte franco-haïtienne. Contactés par RFI, les historiens malgaches saluent cette décision qui leur permettra, ils l'espèrent, d'accéder enfin aux archives de la police coloniale. Un pas de plus pour lever notamment le voile sur le nombre réel de victimes des répressions. Selon les sources, les chiffres varient entre 10 000 et 100 000 morts. Sarah Tétot, Antananarivo, RFI.
Dakar, 92 FM.
Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a débouté hier une loi présentée par des députés du camp présidentiel. Ils voulaient modifier la loi d'amnistie votée par l'ancien président Macky Sall à la fin de son mandat. Le texte annulait les poursuites pour tous les crimes et délits commis entre février 2021 et février 2024 lors des manifestations de l'opposition. Une décision saluée partout, surtout par les victimes et les familles de victimes des violentes manifestations dont les dossiers vont pouvoir enfin avancer au niveau des tribunaux. Juliette Dubois.
Le doute n'est désormais plus permis. La loi d'amnistie votée en mars 2024 pour les faits commis lors des manifestations politiques ne couvre donc pas certains crimes listés par le Conseil constitutionnel, dont les meurtres, assassinats ou actes de torture, conformément aux accords internationaux ratifiés par le Sénégal. Une clarification, un soulagement pour Diop Taïf à la tête du collectif des familles de victimes.
Le Conseil constitutionnel a édifié les Sénégalais sur cette fameuse loi d'amnistie qui était très floue et incompréhensible aux yeux de tous les Sénégalais et puis de justice. Et la décision du Conseil constitutionnel nous donne carte blanche, nous les victimes.
Les personnes concernées par ces crimes pourront réclamer justice dans les tribunaux du pays. Papa Abdoulaye Touré, étudiante en droit, dit avoir été torturé par des forces de l'ordre lors de son arrestation en 2023. Vidéos à l'appui. Pour lui aussi, les choses vont avancer dans sa plainte contre plusieurs hauts responsables, comme l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien chef de la gendarmerie.
C'est un grand soulagement. Après 7 mois, j'étais la seule personne qui a été auditionnée. Maintenant, aujourd'hui, vu que les choses sont claires dans l'esprit de tout le monde, donc le procureur de la République, désormais, il peut demander à ce que toutes les personnes présumées être auteurs ou co-auteurs ou commanditaires de ces actes de barbarie puissent être auditionnées.
Diop Taïf annonce qu'un comité sera créé avec les victimes ainsi que des avocats et militants des droits de l'homme pour porter les plaintes qui sont nombreuses. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Bénin, toujours sous le choc après l'attaque menée contre 2 positions de l'armée qui a fait, selon un dernier bilan et confirmé hier par les autorités, 54 morts parmi les militaires béninois. C'était le 17 avril. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM, a revendiqué cette attaque qui reste la plus meurtrière jamais enregistrée dans cette région du triple point, zone frontalière entre le Niger, le Bénin et le Burkina. Et la CEDEAO a réagi, Lisa Fabian.
La communauté ouest-africaine dénonce un acte barbare et lâche et dit condamner avec la plus grande fermeté cette attaque terroriste odieuse qui a causé de nombreuses pertes humaines et fait de nombreux blessés. Les djihadistes cherchent à semer la terreur et à déstabiliser les États membres de la CEDEAO, avance encore le communiqué publié par l'organisation. Interrogé par RFI, Aboubacar Baparapé, le président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin, évoque lui un coup de massue sur la tête de la population. De plus en plus inquiète et qui se demande quelle sera la prochaine cible selon lui. La question de la coopération du Bénin avec ses partenaires occidentaux est posée, avec une partie de l'opinion publique qui s'interroge aussi sur la nécessité d'organiser la lutte antiterroriste avec les pays frontaliers depuis lesquels sont parfois lancées ces attaques. Le gouvernement béninois a effectivement regretté mercredi une coopération défaillante avec ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, mais sans les nommer directement.
Alors, quelle est la stratégie du JNIM au Bénin? Le JNIM qui a donc revendiqué cette attaque la plus meurtrière, on l'a dit, dans ce pays. Le docteur Abdelaziz Moussi est socio-anthropologue et enseignant à l'université de Parakou. Il répond aux questions de Nicolas Sur.
Le territoire béninois reste un territoire qui est très convoité dans le but donc d'avoir ce contrôle et d'avoir cette possibilité de se mouvoir dans l'espace des 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Je pense que le JNIM doit être dans une stratégie de contrôler sans gouverner. Ils essayent donc de contrôler à la fois les communautés qui sont dans cet espace, mais aussi contrôler l'espace géographique pour avoir la possibilité de se mouvoir comme ils peuvent le faire et puis traverser le territoire béninois, se retrouver aussi du côté du Nigeria ou même du côté du Togo. Bref, ils cherchent une mobilité plus aisée dans cette zone-là, non pas forcément pour créer un État qu'ils vont forcément gouverner, mais créer un espace où ils assurent le contrôle total à la fois sur le territoire, mais aussi sur les populations pour pouvoir mener des activités, y compris des attaques dans les autres pays comme le Burkina Faso et le Niger, où la menace est encore beaucoup plus pressante sur cette organisation-là.
Mais est-ce qu'il a des bases en territoire béninois ou est-ce qu'il attaque depuis le Burkina et le Niger voisins?
Des bases fixes, non, pour le moment. Il n'a pas encore de base fixe sur ce territoire-là, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas plus ou moins permanent sur ce territoire. Ils ont quand même des points d'attache au niveau des communautés locales qui leur fournissent des informations sur la position de l'armée et qui leur donnent forcément le top pour pouvoir faire des attaques surprises.
Le gouvernement béninois regrette le manque de coopération avec les pays voisins, le Burkina et le Niger. Ces trois pays ne travaillent pas du tout ensemble, il n'y a pas de coordination militaire, pas d'échange de renseignements.
Alors, officiellement, il n'y a pas du tout de coopération entre ces trois pays, malheureusement. Le Bénin avait signé un accord de coopération militaire avec le Niger, mais avec la situation que vous connaissez, le Niger a dénoncé cet accord-là. Et donc, désormais, le Bénin n'a plus la possibilité d'intervenir, parce que dans cet accord, il était question que le Bénin ait la possibilité donc d'intervenir sur le territoire nigérien, je crois jusqu'à 10 kilomètres, et que le Niger également ait cette possibilité. Mais désormais, cette possibilité n'est plus d'actualité. Et donc, le Bénin est confiné à l'intérieur de ses frontières, alors que nous savons que ces attaques où les assaillants viennent majoritairement donc de ces territoires, notamment le Burkina Faso et le Niger.
Le docteur Abdelaziz Moussi, enseignant à l'université de Parakou, avec Nicolas Sûr. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 22h41 en temps universel. Et nous partons en Côte d'Ivoire où deux jours après la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale, son parti, le PDCI, peine à mobiliser ses militants pour exiger la réintégration de son candidat à la présidentielle d'octobre. Des marches étaient prévues dans le pays, mais force est de constater qu'elles n'ont pas mobilisé les foules. Reportage Binta Diagne.
Dès 8h, les principales artères qui entourent le palais de justice sont bouclées par les forces de sécurité. Pendant ce temps-là, dans le tribunal, les audiences se tiennent normalement. Première affaire inscrite au rôle, Valérie Yapo contre Tidiane Thiam. Cette cadre du PDCI qui avait été sanctionnée par son parti conteste la légalité de son élection à la tête du PDCI lors du congrès de décembre 2023, comme l'explique son avocat, Maître Gérard Nguetta.
Le président qui a été élu au PDCI n'était pas habilité, compte tenu du fait qu'il soit français, à diriger ce parti et à faire prendre une décision d'exclusion de notre cliente. Et c'est cette décision que nous sommes venus attaquer devant le tribunal sur le fond.
L'affaire est renvoyée au 8 mai. Quelques ruelles plus loin, les militants du PDCI arrivent au compte-gouttes, à la permanence du parti, toujours motivés à exiger la réintégration de leur candidat.
S'il n'y a pas l'homme de Tidiane sur la liste, on ne peut pas mettre l'homme de quelqu'un d'autre sur la liste. Parce que c'est Tidiane Thiam qui le présente pour PDCI NDA. Donc on est là pour lui.
Mais le retard et la faible mobilisation poussent les organisateurs à revoir leur programme. Simon Doho, le président du groupe parlementaire du PDCI.
Nous avons décidé, en toute responsabilité, de reporter pour suivre l'actualité. Le 8 mai, il y aura une nouvelle séance. Nous serons présents. C'est un combat de longue haleine dans lequel nous sommes engagés.
Tidiane Thiam, le président du parti, suit ces événements de loin, en France, où il séjourne depuis quelques semaines. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En bref, des tensions à Dar es Salaam. Aujourd'hui, l'opposition tanzanienne dénonce des arrestations. Ce jeudi, plusieurs sympathisants et responsables du parti Chadema, parti d'opposition, ont été battus, d'autres interpellés, alors qu'ils tentaient de suivre l'audience de Tundu Lissou, le président de ce parti, qui est jugé pour trahison, une accusation passible de la peine de mort. Le Qatar, le Rwanda et la Belgique saluent la déclaration du gouvernement congolais et des rebelles de l'AFC M23 affirmant vouloir une trêve dans le conflit dans l'est de la RDC. Dans un communiqué conjoint hier soir, Kinshasa et le groupe armé disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. Alexandra Bonjon.
Médiateur dans cette crise, le Qatar salue ce qu'il qualifie d'avancée et appelle Kinshasa et l'AFC M23 à poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. Les délégations n'ont annoncé ni trêve ni le début de véritables pourparlers, mais leur communiqué commun suscite déjà beaucoup d'espoir. C'est la première fois que les deux parties publient un communiqué officiel à l'issue de leur discussion au Qatar. Dans ce communiqué conjoint, le gouvernement congolais et l'AFC M23 affirment avoir mené des discussions franches et constructives. Ils affirment avoir convenu de travailler ensemble à la conclusion d'une trêve qui permettra l'instauration d'un cessez-le-feu effectif et se disent prêts à respecter l'ensemble des engagements avant d'ouvrir un dialogue constructif. À noter que cette annonce survient après une rencontre entre le ministre d'État qatari, Mohamed Al-Khulaifi, en charge du dossier, et l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos, signe pour certains de la pression exercée par Washington pour parvenir à une solution durable au conflit.
La RDC ou l'ONG Médecins Sans Frontières déplore l'assassinat de l'un de ses employés tué par balle vendredi par un homme à Massissi, localité de la province du Nord-Kivu. Médecins Sans Frontières appelle les miliciens et les soldats congolais à, je cite, cesser les violences contre les civils et les humanitaires.
Brazzaville, 93.2 FM.
L'ONU vient de proclamer la décennie mondiale de reboisement sur proposition du Congo Brazzaville. L'objectif, c'est de renforcer le couvert végétal, comme on l'appelle, et lutter efficacement contre les changements du climat à Brazzaville. Lucien Martial.
L'initiative vise à augmenter entre 2027 et 2036 la superficie végétale mondiale de 4%. La stratégie pour atteindre cet objectif est en cours d'élaboration. Rosalie Matundu est ministre congolaise de l'économie forestière.
Il est temps de prendre déjà l'alternative de créer des forêts artificielles afin que nous puissions décliner cette tendance qui va vers la déforestation et la dégradation des écosystèmes. Mais nous voulons, nous, pour la décennie que nous avons proposée au monde, augmenter les superficies forestières à travers la forestation et le reboisement.
La forestation consiste à planter des arbres dans des zones non forestières. L'initiative prévoit, par exemple, de boiser les zones de savane dans le monde. Megzon Animba Mbeka, de la société civile, salue le projet, mais nuance.
Cela ne doit pas nous faire perdre de vue que nous ne devrons pas perturber ou provoquer la disparition d'autres écosystèmes tels que les savanes au profit des forêts, parce que les savanes sont aussi l'habitat d'une certaine faune.
Officiellement, le monde perd chaque année 10 millions d'hectares de forêts à cause de la déforestation. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Le football au Ghana, les phases finales du championnat scolaire d'Afrique battent leur plein pour cette troisième édition. 16 équipes U15, 8 de garçons, 8 de filles s'affrontent pour décrocher le titre. La finale aura lieu samedi 26 avril, mais plus qu'un tournoi sportif, l'événement qui fait participer plusieurs centaines de milliers d'écoliers et écolières chaque année depuis 2022 peut également servir de tremplin pour les jeunes joueurs. Reportage au stade de l'université de Legon lors des phases de poule avec Victor Carillo.
Match de poule Côte d'Ivoire-Sénégal, score final 0-0. Sur le banc, Désiré Amiens ne tient plus en place. Le sélectionneur des éléphantaux, nom donné aux U15 ivoiriens, saisit toute l'importance pour ces jeunes de briller lors de ce championnat international.
C'est pour gagner des lauriers, pour porter le drapeau de la Côte d'Ivoire haut. Mais d'autres iront dans les pays du Maghreb, comme il y a certains de nos jeunes qu'on a formés qui sont aujourd'hui en Tanzanie. Vraiment, on forme nos enfants pour qu'ils s'exportent.
Encore faut-il se faire remarquer par des recruteurs, de plus en plus nombreux à chaque édition du championnat scolaire africain, selon la Confédération africaine de football. Une donnée que Jonathan Nyokogusso, joueur U15 de la sélection ivoirienne, a bien en tête.
Je mets encore plus la pression, je m'améliore, ainsi de suite. C'est une occasion aussi, une opportunité. Donc maintenant, Inch'Allah.
Plus qu'un tremplin individuel, le championnat scolaire permettrait de consolider depuis la source les sélections nationales du continent. Martin Namboni est coach adjoint de l'équipe féminine U15 du Bénin.
Actuellement, nous avons nos U17 féminines qui jouent la qualification pour le mondial. Et cette équipe est constituée à 98% des joueuses venant des championnats scolaires. Ça va servir réellement au niveau des clubs du pays.
Une montée en puissance des équipes africaines par le bas pour, à terme, pouvoir améliorer la compétitivité de tout un continent lors des événements internationaux. Victor Cariou, Accra, RFI.
Vous connaissez sans doute cette technologie, le paiement mobile. Ça se généralise, cette technologie. puisqu'elle est désormais adoptée par une large partie de la population en Afrique de l'Ouest. En 4 ans, le nombre de comptes mobiles monnaie a doublé dans la région. On en recense 485 millions pour l'an dernier, pour 357 milliards de dollars échangés. C'est Afrique Éco avec Alexis Bédu.
Les opérateurs ont investi dans le paiement mobile, convaincus que les appels vocaux ne suffisent plus pour faire gonfler leur chiffre d'affaires. Le paiement mobile et ses QR codes se sont répandus comme une traînée de poudre dans les commerces, les taxis, des services financiers accessibles à tout le monde. Pour les particuliers comme les entreprises qui n'ont pas de compte en banque, le paiement mobile change la donne.
Le mobile money est en Afrique de l'Ouest. Est tout simplement en train de tenir ses promesses et en train de rattraper son retard.
Arnold Nyama est en charge du développement business en Afrique francophone chez Tunes, une fintech singapourienne.
Des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, etc. Le taux de bancarisation, quand on remonte en arrière, 15 ans en arrière, il était en dessous de 15%. Et grâce aujourd'hui à l'adoption du mobile money, on se retrouve à 71% dans l'UE mois. Des personnes, des individus et même des entreprises aujourd'hui arrivent en fait à non seulement développer le taux d'inclusion financière, mais à développer des usages.
L'autre immense accélérateur, c'est l'arrivée d'acteurs comme l'américain Wave, spécialiste du paiement mobile. Avec ses 1% de commission et son application intuitive, il a su conquérir les marchés. 21 millions de comptes actifs en Côte d'Ivoire, par exemple.
Wave qui a cassé les prix, qui s'est engagé dans une guerre tarifaire qui aujourd'hui porte ses fruits. Ça a boosté le paiement marchand non seulement par les coûts qui ont été réduits, mais également par la simplicité d'usage. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont en train d'aller vers ce modèle, en fait, la simplification et de s'aligner également sur les prix.
L'enjeu désormais se trouve du côté de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, un projet visant à interconnecter tous les portefeuilles de monnaie électronique, quel que soit l'opérateur, est en cours. Mathias Leopoldi est le cofondateur de Julaya, start-up spécialisée dans la finance, présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo.
Aujourd'hui, les comptes, comme je disais, sont un peu en vase clos. Donc, quand vous avez un compte Orange Money, vous pouvez pas envoyer sur un compte Wave. Donc, aujourd'hui, ça freine l'usage. Beaucoup de gens ont des multi-comptes même. Et vous voyez, les gens font « Ah, tu veux de l'argent sur Orange ? Attends, j'en ai que sur Wave, alors il faut que j'aille retirer et puis je te le mets sur Orange, etc. » Ça ralentit énormément les transactions. Et donc, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle propose un système technique central où tous les acteurs viennent se connecter. Ça unifie le cadre parce qu'aujourd'hui, chacun fait un peu ses règles.
Une interopérabilité du paiement mobile dont la phase de test a débuté en août dernier et à laquelle participent 90 institutions financières de la sous-région.
RFI 22h51 à Dakar et à Bamako.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous pour son rendez-vous du jeudi certifié Afroclub. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir ma chère Sylvie, bonsoir à tous.
Alors un menu très varié ce soir encore. On va commencer avec le Togo pour la mise en bouche et le chanteur Katal et son hymne à la gratitude, reconnaissance.
Oui, Katal a dévoilé sa reconnaissance le 18 avril dernier en guise de successeur à son précédent single « Pour toi » publié en février en duo avec le chanteur béninois Nika. Katal est enraciné dans son héritage culturel dans lequel il puise son inspiration à outrance pour nous donner des musiques afro-urbaines fabriquées sur mesure. Dans Reconnaissance, Katal exprime donc sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours. D'ailleurs, le clip illustre cette thématique avec des images poignantes qui retracent son cheminement artistique.
Nene kamereza million bom trobo. On se dorme à nos founouye. Nya bagbe à nous kounouye. Every day nos fans nos dakbe. Dakbe na maouye. On se dorme à nos founouye. Nya bagbe à nous kounouye. Every day nos fans nos dakbe. Dakbe na maouye. Oh oh. Le réveil est un combat. Mon ami réjouis-toi. Chaque jour suffit sa peine.
Une découverte intéressante à mettre dans toutes les playlists de ce week-end. On va changer de rythme avec les deux icônes de la musique camerounaise, Blanche Bailly et Lady Ponce.
Tout à fait, deux icônes issues de deux générations différentes. Blanche Bailly et Lady Ponce viennent marquer les esprits avec leur collaboration inédite « Lève-toi ». qui est finalement la rencontre de l'Afropop et du Bikutsi. Blanche Bailly et Lady Ponce adressent un message intergénérationnel de résilience et surtout de solidarité féminine. Les deux divas encouragent les femmes à se lever face à leur conjoint, à s'affirmer et à prendre leur place dans le couple comme dans la société.
On dit que l'union fait la force, toi et moi c'est ton pied, mon pied. Mais je frappe à la porte, je veux pas te lever. Bébé, c'est là, 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 fais-moi ça là. Oh oui, c'est là, 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 bébé, je veux le faire. Avec toi, je connais pas gourmand. Chérie, mon corps réclame ta main. Oh. J'ai dit que c'est ton pied, mon dos. Aujourd'hui, c'est donné, donné. Oh. C'est Dieu qui t'a donné. Oh. Bébé, oh.
Alors c'est toujours très rythmé hein, dès qu'il y a du Bikutsi dans l'air. Sans transition, Hervé, on va enchaîner avec la traditionnelle séquence rétro du jeudi dans l'Afro Club. Et vous nous ramenez en 95, une année de la sortie du tube Let It Flow de Toni Braxton, tiré du film Où sont les hommes ?
Oui, c'était il y a 30 ans déjà que le long métrage Waiting to Exhale, Où sont les hommes pour la version française, cartonnait au box-office. Il est depuis devenu un film emblématique de la sororité afro-américaine. Réalisé par Forest Whitaker, le film est basé sur les vies de quatre femmes afro-américaines explorant leurs défis amoureux, professionnels et personnels avec au casting Whitney Houston, Angela Bassett, Loretta Devine et Lila Rochon. La bande originale du film produite par Babyface, non ce n'est pas un cousin éloigné de DJ Facemaker, est une compilation de morceaux interprétés exclusivement par des artistes afro-américains dont Toni Braxton et son tube certifié 6 fois disque de platine Let It Flow.
First thing Monday morning, I'm gonna pack my tears away. Got no cause to look back. I'm looking for me a better day. See the thing about love is that it's not enough if the only thing it brings you is pain. Comes a time when we could all make a change, darling. Just let go.
Une séquence rétro-historique avec Toni Braxton. Et pour conclure cette sélection Afro Club, on revient en 2025 avec le chanteur tchadien Egon.
Egon qui vient enrichir le paysage musical de son pays avec sa voix très prometteuse. Egon allie tradition et influence contemporaine dans les titres. Django, qui est en train de se faire une place au soleil grâce à son approche novatrice et son engagement pour la culture du Tchad. Je suis sûr que Django sera votre chanson préférée de la sélection de ce soir, Sylvie. D'autant plus que Egon rend accessible le patrimoine musical tchadien aux nouvelles générations. Une prouesse qui touche les auditeurs du continent et même au-delà.
Et c'est donc avec Egon que l'Afro Club referme ses portes en ce jeudi 24 avril et j'encourage tous nos auditeurs à réécouter le podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Et même sur notre site internet rfi.fr. L'Afro Club sera de retour dès lundi sur RFI Musique et tous les réseaux sociaux de la Radio Mondiale. Soyez patients d'ici là et restez bien à l'écoute d'Afrique Soir avec Jonathan Brady à la réalisation et bien sûr celle qui nous informe tous, Sylvie Berruet.
Merci à vous Hervé et Mandine à nous avoir fait encore vibrer avec cet Afro Club pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe d'Afrique Soir. Mathieu De Gueldre avec Jonathan Brady, duo de choc ce soir pour vous faire vibrer sur l'antenne de la Radio du Monde. Restez à l'écoute, l'info revient dans quelques instants.
Matika telephone le mai bi yang look ti manga dami le tedung le ten maridi tedung le ten mamu yang gas tedung ga ba kodur ten gaire nga ba tedung kulu ten gaine kodun tedung wala usir de klani na tedung wala usir de bangari kangi bunyo di ba
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.